Merci, Elisabeth, et je voudrais remercier aussi Antoine Compagnon et Nathalie Mauriac-Dyer de m'avoir invité. Alors, l'antisémitisme a fait couler beaucoup d'encre. Les spécialistes en ont analysé les causes et les effets, l'histoire et la politique. Le philosémitisme, le fait d'admirer ou d'aimer les Juifs ou de prendre leur défense, est en revanche passé presque inaperçu. Loin s'en faut pourtant que l'ère moderne ait été uniformément hostile aux Juifs, surtout en France. À la fin du XIXe siècle, les Juifs avaient au contraire accompli en peu de temps une remarquable ascension sociale. Aussi, qui veut tenter de comprendre la question juive doit tenir compte tout autant que de l'hostilité à laquelle les Juifs se sont heurtés, de la bienveillance qu'ils ont rencontrée. Je souhaite ici défendre l'idée que c'est justement ce que fait Proust. Si son analyse de la question juive est si fine, c'est précisément parce qu'il met l'accent sur l'interaction dynamique de l'antisémitisme avec ce qui en semble l'exact opposé. Comme je vais le montrer, la recherche passe en revue toutes les raisons pour lesquelles les non-juifs accueillent les juifs au sein de leur club et de leur salon, dans leur théâtre et dans leur chambre à coucher. Le roman présente aussi une analyse très pessimiste de ce qui, au bout du compte, voue ce philosémitisme à l'échec. La question de la manière dont les Juifs pourraient pénétrer la société chrétienne était assurément une question pressante pour un écrivain comme Proust, demi-juif et en pleine ascension sociale. Proust semble à bien des égards démêler dans le roman les lois qui gouvernent son propre statut dans la société parisienne, même s'il affranchit son narrateur de la plupart des traits qui le caractérisent lui-même, notamment sa judéité et son homosexualité. Proust, comme nous le savons, projette ses caractéristiques sur d'autres personnages, que le narrateur observe se frayer un chemin dans la société. Aux côtés d'un certain nombre de personnages juifs mineurs, réels et fictifs, trois des principaux personnages du roman sont dépeints comme juifs, Swann, Bloch et Rachel. L'on pourrait également y adjoindre Gilberte, la fille de Swann. Chacun de ces personnages représente à la fois une différente classe de juifs et un différent modèle d'intégration. Chacun d'eux, en outre, permet à Proust d'examiner de manière critique une forme différente de philosémitisme. Commençons par Swann. Nous apprenons au début du roman que son origine juive ne l'empêche pas d'être un ami proche de la famille bourgeoise et catholique du narrateur, apparemment leur seul ami proche. Mais, en réalité, Swann évolue bien plus haut dans la société, puisqu'il devient l'un des membres les plus élégants du Jockey Club, ami préféré du comte de Paris et du prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du faubourg Saint-Germain. Swann est à tous les égards le juif d'exception. Les Guermantes reçoivent certes d'autres juifs, mais c'est à Swann qu'ils réservent leur véritable amour. De fait, dans le premier volume, Proust met un grand soin à expliquer ce qui rend Swann si attirant aux yeux d'un certain type d'aristocrate. Nous apprenons qu'il faisait la pluie et le beau temps pour les gens à la mode, qu'il le couvre d'affection. Pour la duchesse de Guermantes et pour son cercle, il est l'homme exquis par excellence qu'on faisait tout pour attirer, qu'on se désolait de ne pas voir. L'attrait représenté par Swann semble tout d'abord avoir peu à voir avec sa judéité. Il semble même que certains de ses admirateurs, tels le prince de Guermantes, l'aiment en passant outre ou en niant sa judéité. Qu'est-ce que donc exactement, ne cesse d'interroger le roman, qui rend Swann si aimable? Pour le baron de Charlus, l'attraction a une dimension sexuelle. Charlus fait même allusion à une possible aventure homosexuelle de collégien. Mais pour la plupart des Guermantes, y compris pour Oriane, la duchesse, l'amour de Swann est d'autant plus fort qu'il est platonique. désigné comme un garçon d'esprit, s'il en fut, Swann gagne l'amitié de la duchesse non par son corps, mais par son esprit. Le narrateur souligne que, Le narrateur souligne que l'esprit de Swann était extrêmement apprécié dans sa coterie. Et bien qu'il ne donne que peu d'exemples de cet esprit, il note que Swann évite les sujets sérieux et préfère les anecdotes aux grands discours. De même, le narrateur dit des formules équivoques qui caractérisent la conversation de Swann qu'il avait l'air de ne pas oser avoir une opinion. Au même titre que sa culture raffinée, la diaphane légèreté de la conversation de Swann est associée dans le roman avec la judéité. Le narrateur l'identifie au théâtre de Meillac et à la vie, considérée justement à l'époque comme une forme artistique éminemment juive. C'est au début de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » que Swann découvre les limites de cette forme de philosémitisme, le philosémitisme de l'exception. Il réalise à ce moment-là que les Guermantes n'accepteront sa femme et sa fille. Swann découvre alors que l'amour dont on l'entoure n'est pas inconditionnel, ni métonymique, ni transférable. Cet amour ne s'étend pas au-delà de lui-même. Il est plus significatif encore que ce type de philosémitisme qui chérit le juif parce qu'en lui s'incarnent certaines qualités, comme la beauté ou l'esprit, se détache du juif dès lors que celui-ci ne les incarne plus. Swann apprend la leçon au cours de l'affaire Dreyfus, quand son engagement passionné en faveur de l'officier juif pousse plusieurs Guermantes à se détourner de lui. Mais pour ce qui concerne Swann, dit le duc de Guermantes, je peux dire franchement que sa conduite à notre égard a été inqualifiable. Patronné jadis dans le monde par nous, par le duc de Chartres, on me dit qu'il est ouvertement Dreyfusard. Jamais je n'aurais cru cela de lui. Ah, j'ai été bien trompé. Il n'aurait pas dû faire cela. Il aurait dû désavouer ouvertement les Juifs et les sectateurs du condamné. Le duc révèle ici à quel point l'amitié accordée aux Juifs d'exception est provisoire. Ceux qui l'aimaient pour son absence d'opinion le rejettent à peine en a-t-il formulé une. Par définition, d'ailleurs, le philosémitisme attaché aux Juifs d'exception ne saurait tolérer qu'un Juif s'associe à d'autres Juifs. Le Juif préféré cesserait alors d'être exceptionnel. Si Swann représente au début le bon type de juif, Bloch en incarne le mauvais type, le juif qui ne peut dissimuler les pires traits de la race. Si Swann est l'exception, Bloch est la règle. Et si du côté de chez Swann se concentre sur la forme du philosémitisme de l'exception qui entoure Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, situe Bloch au sein d'un groupe, ou, pour reprendre les termes du roman, une colonie qui ne peut ou ne veut pas s'assimiler. Toutefois, si Bloch possède une essence juive inassimilable et qui émerge d'autant plus fortement qu'il s'efforce de la dissimuler, le roman ne l'en montre pas moins capable de se frayer un chemin dans la société française grâce au philosémitisme. Un philosémitisme différent, cependant, de celui qui s'adresse à Swann. Une large portion du côté de Guermantes est centrée sur les impairs tragicomiques commis par Bloch au début de l'affaire Dreyfus, dans le salon de Madame de Villeparisis, où il a été admis en tant que représentant d'un groupe exotique. Les Roumains, les Égyptiens et les Turcs peuvent détester les Juifs, mais dans un salon français, les différences entre ces peuples ne sont pas si perceptibles, et un Israélite faisant son entrée comme s'il sortait du fond du désert, le corps penché comme une hyène, la nuque obliquement inclinée et se répandant en grand salam, contente parfaitement un goût d'orientalisme. Le juif exotique en tenue de soirée peut bien croire qu'il se fond dans le décor. En réalité, ceux qui l'entourent ne le tolèrent justement que dans la mesure où ils peuvent l'imaginer portant de longues robes et coiffé d'un turban. Madame de Villeparisis accueille Bloch chez elle en dépit de sa judéité et de son dreyfusisme, dans l'espoir que ses relations dans le monde du théâtre lui permettront de recruter des musiciens pour l'une de ses soirées. Il est clair cependant que Bloch doit négocier un terrain très glissant et il n'y parvient pas. Il multiplie les faux pas, renversant un vase, puis proclamant haut et fort sa conviction de l'innocence de Dreyfus, accumulation d'impairs que couronne son expulsion du salon. Proust s'apesantit à loisir sur son humiliation, comme pour le punir d'essayer de s'élever au-dessus de sa position, bien que Bloch ne prenne guère la mesure de son échec. La leçon de cet épisode est que la forme exotisante du philosémitisme n'est pas moins rigoureuse ni moins susceptible de se retourner en son contraire que le philosémitisme de l'exception. La troisième forme de philosémitisme décrite par Proust est le philosémitisme qui considère le juif comme un objet sexuel. La belle juive, bien sûr, est issue d'une longue lignée dans la littérature occidentale, lignée qui remonte au moins jusqu'au Marchand de Venise de Shakespeare. Au XIXe siècle, la belle juive reparaît sous les traits de la prostituée juive, des romans de Balzac, de Maupassant et de Huysmans, entre autres, ou de la poésie de Baudelaire. Proust soumet ce stéréotype à un mépris qui n'est pas sans humour. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le jeune narrateur se rend dans un bordel de deuxième ordre où une maquerelle pleine de zèle cherche à lui vendre Rachel en lui vantant sa judéité. Et je vais sauter là. « Pensez donc, mon petit, une juive, il me semble que ça doit être affolant. » Si le narrateur reste froid devant la prostituée juive, son ami Robert de Saint-Loup se révèle sans aucune défense face à ses charmes équivoques. La passion de Saint-Loup pour Rachel, tout comme sa ferveur dreyfusarde, et les deux sont liés, je pense, suscite bien des inquiétudes dans son aristocratique famille. Mais les deux passions se révèlent également volages. Dès Sodome et Gomorre, Saint-Loup a renoncé à Rachel et est devenu un nationaliste réactionnaire. Le caractère soudain de son rejet du philosémitisme, la véhémence même de ce rejet, suggère que se joue ici autre chose qu'un simple réexamen de conscience. D'autant que ce retournement intervient alors que de nombreux aristocrates, y compris même le prince de Guermantes, ont commencé de se rallier à la cause de Dreyfus. Le roman suggère ainsi que si Saint-Loup peut si rapidement se retourner en anti-Dreyfusard, c'est que ses motivations pour défendre le capitaine juif, tout comme son amour pour les femmes juives, puisent à des sources irrationnelles. Si même le plus admirable des philosémites peut tout d'un coup se retourner contre Dreyfus et contre les Juifs, alors les Juifs ne peuvent compter sur personne. C'est en tout cas, semble-t-il, ce qui se passe dans le monde de Proust. Le roman ne cesse de montrer, y revenant toujours, comment l'amour pour les Juifs se mue en haine. Morel, l'un des personnages les moins admirables du roman, fournit un autre exemple de ce phénomène. Dans La prisonnière, Bloch intervient pour que son riche oncle, M. Nissim Bernard, prête 5000 francs au musicien. De ce jour, Morel avait adoré Bloch. Il se demandait, les larmes aux yeux, comment il pourrait rendre service à quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. Cet exemple représente un cas de ce que l'on pourrait appeler le philosémitisme utilitaire, soit l'amour pour les Juifs parce qu'ils rendent quelques services utiles. Juste une page plus loin, cependant, Morel menace de traîner M. Nissim Bernard en justice et déplore qu'il n'y ait plus de justice en France, surtout contre les Juifs. Ce changement d'attitude brutale ne procède nullement de quelques actions malfaisantes de la part de M. Nissim Bernard, mais bien au contraire, de la gentillesse même que celui-ci témoigne à Morel. L'antisémitisme, Oui, ah, qu'est-ce que... Ah, ok. Excusez-moi. Ah, ok. Excusez-moi. Ah oui, l'antisémitisme ayant été chez Morel, nous explique le narrateur, l'effet naturel du prêt de 5000 francs par un Israélite. Cette courte anecdote se lit presque comme une parabole avertissant les Juifs du danger de leur position. Le philosémitisme de Morel est peut-être aussi superficiel que celui de Saint-Loup est profondément enraciné, mais l'un et l'autre sont dépeints comme irrationnels, et l'un comme l'autre peuvent se retourner comme un gant. J'ai jusqu'ici défendu l'idée que Proust offre dans la recherche un catalogue des différentes formes de philosémitisme qui sont à l'œuvre au sommet de la société du Paris fin de siècle. Toutes ces formes recèlent la possibilité de se transformer rapidement en antisémitisme. Et si l'on considère toutes ces formes, l'on découvre que ce qui les relie entre elles est une psychologie similaire. Proust montre que tout philosémitisme est gouverné par le narcissisme. Et c'est ce narcissisme qui explique l'essentielle instabilité du philosémitisme. Quelques exemples suffiront à montrer le narcissisme de tous les philosémites de Proust. La forme la plus élémentaire du narcissisme infantile ou primaire se révèle dans le philosémitisme utilitaire, tel celui qui motive l'amour de courte durée que Morel témoigne à Bloch et à M. Nissim Bernard. Ici, le non-juif qui emprunte de l'argent aux juifs, puis se met à le haïr, semble croire que l'argent a toujours été à lui. Selon ce scénario, la réalité du créancier juif vient briser le fantasme narcissique du débiteur qui s'imagine, comme l'enfant au sein, que le monde existe pour le nourrir. La haine qui en résulte à l'endroit du prêteur juif reflète la défense du narcissique contre la rupture de son fantasme. C'est également le narcissisme qui gouverne le philosémitisme de l'exception qui caractérise la duchesse de Guermantes. Dans le premier volume, elle ne peut littéralement détacher ses yeux de Swann lorsqu'il entre dans une pièce. Mais elle ne le voit jamais vraiment, au sens où elle ne voit jamais en lui autre chose qu'elle-même. Il lui est un miroir et aussi une sorte de magnétophone. Swann et la princesse de l'homme, c'est-à-dire la duchesse, avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Swann offre à la duchesse une vision idéalisée d'elle-même, une vision d'elle-même telle qu'elle veut être vue, spirituelle, cultivée et surtout supérieure aux membres de son groupe social. Aussi peut-elle admirer les qualités de Swann, même ses qualités juives, dans la mesure où elle les a faites siennes. Mais plus tard, dans le roman, quand Swann lui révèle qu'il est mourant, elle refuse de lui parler de crainte d'être en retard à une soirée. La duchesse réalise, certes, confusément, que le dîner où elle allait devait moins compter pour Swann que sa propre mort. Mais cette extraordinaire litote trahit le narcissisme écrasant qui caractérise sa relation à son prétendu ami. La dimension narcissique est peut-être plus manifeste encore dans la forme exotisante du philosémitisme qui chérit dans le juif le spécimen rare. Si, à première vue, les aristocrates que charme l'allure orientale de Bloch dans le salon de Madame de Villeparisis semblent apprécier l'altérité, en réalité, ils ne font que rendre hommage à leur propre sens de la distinction et du goût artistique. Quand il voit en Bloch une figure sortie d'un tableau orientalisant de Decamps, ce n'est pas du tout lui, Bloch, qu'il voit. Bien au contraire, il voit à travers lui pour s'admirer eux-mêmes. C'est la fascination sexuelle suscitée par les Juifs, cependant, qui permet à Proust de pousser le plus loin sa réflexion sur la dimension narcissique du philosémitisme. L'attirance de Saint-Loup pour Rachel s'avère inexplicable pour le narrateur parce que dans la majeure partie du roman, celui-ci croit que notre amour pour les êtres ou les choses dérive de quelques qualités inhérentes à l'objet aimé. Or, dans le cas de Rachel, il ne trouve rien qui soit digne d'amour. Finalement, à la fin du roman, le narrateur réalise son erreur théorique en matière d'amour. Je m'étais rendu compte que seule la perception grossière et erronée place tout dans l'objet quand tout est dans l'esprit. L'amour, apprenons-nous, existe dans l'œil de celui qui regarde. C'est un sentiment essentiellement narcissique. Les formes que nous croyons désirer dans l'objet d'amour vivent en fait dans nos fantasmes. Nous sommes amoureux non pas de l'objet, mais de nos fantasmes. Il faut dire que le narcissisme qui sous-tend les interactions avec les Juifs dans le roman peut également fonctionner à leur avantage. Puisque, comme Proust le met en évidence, l'antisémitisme plonge également ses racines dans le narcissisme, il s'avère tout aussi instable. De fait, de même que le philosémitisme se transforme aisément en antisémitisme, de même, et Proust semble trouver un plaisir particulier à le mettre en évidence, presque tout l'antisémitisme rencontré dans le roman masque un certain philosémitisme. Il n'est pas jusqu'au baron de Charlus, dont les sorties antisémites sont les plus violentes du roman, qui nous révèle un penchant secret pour le beau juif. Après une tirade violente contre Bloch, Charlus demande l'adresse de celui-ci au narrateur. Charlus n'a fait, comme s'en aperçoit le lecteur, que déguiser ainsi maladroitement son espoir de le séduire. Le narrateur désigne l'antisémitisme ambivalent de Charlus comme ce discours anti-juif ou pro-hébreu, selon qu'on s'attachera à l'extérieur des phrases ou aux intentions qu'elles recelaient. Il formule ici, plus clairement qu'en aucun autre endroit du roman, le principe selon lequel l'antisémitisme et le philosémitisme procèdent non seulement de la même source irrationnelle, mais pourraient bien être aussi les deux faces d'une même pièce. Proust prend grand soin de démontrer combien le philosémitisme et l'antisémitisme peuvent être instables, et il se sert de ces démonstrations pour développer ses théories plus vastes, plus universelles sur la nature des passions humaines. Je pense pourtant qu'il nous faut résister à cette tendance à l'universalisation et qu'il nous faut lire le roman de Proust comme un avertissement très spécifique adressé aux Juifs quant aux périls liés à leur situation. Comment, interroge-t-il, s'orienter dans un monde où l'amour et la haine se révèlent si intimement liés et dans lequel le kaléidoscope social tourne si vite? Proust essaie de résoudre ce problème dans le dernier volume du roman. À première vue, Proust semble conclure en présentant le triomphe social des Juifs qui a résulté de la victoire des Dreyfusards. Dans le temps retrouvé, le narrateur revient à Paris après une absence prolongée pour trouver les brèches ouvertes par l'affaire Dreyfus colmatées par la Première Guerre mondiale. Il assiste à une soirée chez le prince de Guermantes et découvre que de nombreux juifs qu'il avait jadis connus au bas de l'échelle sociale jouissent désormais d'un prestige extraordinaire. On désigne maintenant Bloch comme le Bloch Guermantes, le familier des Guermantes, et il n'est pas le seul dans le cas. Rachel devient elle aussi une amie de la duchesse de Guermantes à mesure que croît sa renommée sur la scène. Toutefois, en dépit de l'apparente ascension de Bloch et de Rachel, leur coefficient social réel n'a guère évolué. Rachel peut certes considérer la duchesse comme une amie, mais le narrateur fait clairement apparaître que la duchesse n'a jamais cessé de la considérer comme un autre exotique. On pourrait dire la même chose de Bloch et des Guermantes. Bien que Bloch ait échangé son nom pour un patronyme aux sonorités plus aristocratiques et il se soit affublé d'un monocle atténuant son air juif, Le narrateur montre clairement qu'il a conservé les manières grossières du juif parvenu. À première vue, la fille de Swann, Gilberte, semble représenter une exception à cette règle. À travers son mariage avec Saint-Loup, facilité par les nombreux millions dont elle hérite de sa famille juive, elle parvient finalement à accomplir la plus chère ambition de son père. Elle devient non seulement une amie des Guermantes, mais l'une d'entre eux. Le narrateur montre toutefois que cette assimilation ne constitue pas une acceptation de la judéité de Gilberte. Elle se fait au contraire à ses dépens. Gilberte prend le nom de son beau-père de Forcheville et pousse si loin le renoncement à son ascendance juive que ses aristocratiques beaux-parents, qui avaient aimé Swann et considéré que Forcheville était au-dessous d'eux, ne peuvent prononcer le nom de Swann en sa présence. Et tandis qu'elle réussit par son mariage à pénétrer la haute aristocratie, elle échoue, comme Bloch, à laisser sa judéité derrière elle. Troublée d'avoir à prononcer le nom de son vrai père, elle tente d'en déguiser la judéité en prononçant Swann, Svan, en dépit du fait que cette prononciation transforme un nom à consonance anglaise en un nom germanique et donc plus juif encore. À la fin du roman, Gilberte, comme Bloch, pense s'être assimilée, mais il demeure en réalité de manière comique ou pathétiques, des apostats inassimilés, pleins de haine pour eux-mêmes et pour qui le narrateur n'a que du dédain. Le pessimisme de Proust quant aux possibilités de l'intégration sociale des Juifs pourrait sembler le rapprocher au sionisme, qui s'est affirmé comme mouvement politique après l'affaire Dreyfus, rejetant l'espoir de l'assimilation pour presque les mêmes raisons que celles mises en relief par l'écrivain. Mais il est une possibilité pour l'intégration sociale des Juifs que Proust laisse entrevoir et qui l'éloigne radicalement du sionisme. Dans la recherche, en effet, le mariage mixte promet l'espoir d'une véritable assimilation. Bloch, comme nous l'apprenons, marie au moins un de ses enfants avec un catholique. Et tandis que la fille de Bloch répète la précaution ridicule de Gilberte, prononçant son nom avec un « ch » plutôt qu'un « k » pour avoir l'air moins juive, mais non apparaissant que plus juive encore, le narrateur énonce que dans les générations futures, les membres de la famille seront bons et discrets presque de naissance, même si Bloch n'en était peut-être pas encore là. Ceci pour dire que dans les générations futures, la suieur de la judéité finira par s'atténuer, permettant peut-être à la famille de Bloch de s'assimiler pour de bon à la société française. Cette promesse est également réalisée en la personne de la petite fille de Swann, issue du mariage de Gilberte et de Saint-Loup, qui parviendra finalement à effacer la souillure de la judéité et à être pleinement acceptée dans la société. Des traces de sa judéité peuvent bien demeurer, visibles pour qui sait voir, et le narrateur note la courbe du nez de Mademoiselle de Saint-Loup. Mais celles-ci sont désormais censées venir du côté de Guermantes plutôt que du côté de chez Swann. En Mademoiselle de Saint-Loup, les deux côtés qui marquaient les deux chemins différents que prenait le narrateur lors de ses promenades à Combray, le côté de chez Swann et le côté de Guermantes, ou le côté juif et le côté aristocrate, se rejoignent enfin. Bien entendu, quand le narrateur, devenu adulte, revient à Combray, il apprend que les deux côtés s'étaient toujours déjà rejoints. Et de la même manière, dès le début du roman, certains signes pointent vers l'imbrication des Juifs et des aristocrates français. La tapisserie dans l'église de Combray, par exemple, qui dépeint une dame guermante en Esther biblique. Et tout au long du roman, Proust a ainsi recours à des métaphores et à des allusions tirées de la culture juive pour expliquer ce que c'est la francité. Mon argument ici, et c'est sur cela que je conclurai, et que la recherche elle-même offre la possibilité d'une synthèse entre la judéité et la francité, synthèse analogue au mariage mixte qui produit Mademoiselle de Saint-Loup. Se saisissant de la judéité comme matière première, Proust l'a transformée en le plus grand des romans français. C'est ce que le narrateur veut dire à la fin du roman quand il déclare « La matière de mon expérience, laquelle serait la matière de mon livre, me venait de Swann. » Le juif, donc, apparaît comme l'origine du livre. Plus crucialement encore, le roman parvient à préserver la judéité de sa matière, à la conserver intacte, sans qu'on puisse la méconnaître, accomplissant ainsi ce que ces personnages hybrides, croisement de chrétiens et de juifs, ne parviennent pas à accomplir, ainsi de Mademoiselle de Saint-Loup. Tandis que la courbe du nez de celle-ci rappelle au narrateur, non pas Swann, mais Saint-Loup, les thématiques juives de la recherche perdurent, intactes, alors même qu'elles participent d'un roman qui en est venu à signifier la quintessence de la culture française. Si Proust signale les dangers du philosémitisme, il en génère simultanément une nouvelle forme, peut-être plus authentique, moins volage en tout cas, au travers de l'amour de ses lecteurs pour son roman. Proust a certes critiqué toutes les formes de philosémitisme, mais il a aussi cherché à créer un espace qui se déploie entre les pages de son vaste roman, où juifs et non-juifs pourraient parvenir à une union productive. Cet aspect utopique du roman compense le pessimisme qui caractérise une grande partie de son contenu. L'esthétisme de Proust, sa foi dans la capacité de l'art à racheter la vie, ne saurait être écarté comme étant un simple produit de son idéologie bourgeoise qu'il conviendrait de rejeter après avoir extrait les vérités historiques et politiques qui sont au cœur du livre. Cet esthétisme est essentiel au message du roman. Proust a sans doute averti les Juifs des dangers auxquels ils avaient à faire face dans la société française, mais il leur a aussi, à travers son art, assuré une place d'honneur au sein même de cette société. Merci.